Il y a plusieurs façons de mille. Il y a le chakri, c'est le couscous de mille qu'on fait beaucoup au Sénégal.
Le goût du monde, Clémence Denavy.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Le Goût du Monde, l'émission qui parle de ce que l'on mange, de ce qui nous nourrit, des produits, de la terre et des hommes. Et aujourd'hui, eh bien, on ne sait plus très bien ce que l'on mange. En nous installant en ville, notre alimentation a changé, les produits agricoles ont progressivement quitté nos marmites, nos cuisines, pour laisser la part belle aux produits importés, pré-cuits, conditionnés, ce qui nous donne, à nous, mangeurs, tout de même, l'impression de ne plus trop rien maîtriser, de ne plus être indépendant en ville, quand les campagnes le sont encore. De ne plus manger ce qui pourrait être bon pour nous. La question se pose d'autant plus que le sorgho a le vent en poupe, le fonio très digeste, sans gluten, est à la mode aux États-Unis, en Europe, tout comme le mil. Les manies alimentaires sont des phénomènes étranges, n'est-ce pas? Les céréales ancestrales traditionnelles sont-elles en train de faire leur grand retour dans nos marmites? C'est la question qu'on se pose. Pour en parler, nous sommes avec Nicolas Bricasse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CIRAD à Montpellier, directeur de la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Un homme et deux femmes, Charlotte Konkobo-Yameogo, chercheur au département technologie alimentaire au Centre national des techniques du Burkina Faso à Ouagadougou, et Charlotte Ndoye, sociologue chargée du pôle sécurité alimentaire du développement des micro-entreprises et des questions de genre pour l'ONG Endagraf Sahel à Dakar. Charlotte et Fatou présentes, un peu en décalé, elles ont pris leur avion, je les ai rencontrées hier soir. Fonio, sorgho, mil, évidemment, maïs, des céréales autres que le blé et le riz qui se sont imposées dans les assiettes ces 20 dernières années. Quelle place occupent ces céréales traditionnelles dans nos marmites, Fatou Ndoye, Charlotte Konkobo? Comment les définiriez-vous, Charlotte?
Ce sont des céréales d'abord ancestrales qui, avec le développement urbain, ont refait surface dans le registre alimentaire, dans l'espace du mangeable des citadins.
Elles avaient disparu?
Pas forcément disparu, mais elle n'était pas trop une référence pendant un long bout de temps. Parce qu'on leur avait privilégié, par exemple, le maïs, le riz, par rapport au fonio et au sorgho. C'est le maïs et puis le riz qui étaient privilégiés. Maintenant, de plus en plus, dans certains ménages, on voit une consommation multivariée de céréales, notamment qui réintroduisent le sorgho, et aussi par rapport à certains légumes. Par exemple, à cette période, on a les fleurs de cacopier et qui est consommée avec le taux de sorgho rouge dans certains ménages.
Est-ce que ça relève d'une recette?
Oui, ça relève d'une recette et aussi d'un goût quoi, particulier qui ça donnerait avec cette sauce. Ça fait traditionnel, on aimerait retrouver un goût ancestral par rapport à cette sauce à base de fleurs de cacopier.
Fatou?
Oui, bon, quand on prend le cas du Sénégal, là aussi, on voit un peu le retour vers les produits locaux, notamment les céréales comme le maïs, le mil, et même les légumineuses comme le gnébé et haricots locaux. Et il faut le situer aussi dans un contexte où le Sénégal a été vraiment considéré depuis très longtemps et comme un pays qui a une consommation très extravertie. C'est-à-dire l'essentiel de sa consommation provenait de l'extérieur. Depuis l'époque coloniale, les politiques se sont appesantis sur l'importation de riz et au détriment des cultures vivrières. Mais aujourd'hui, avec les multiples crises, les ménages, les populations commencent à réinvestir les céréales locales, le mil, le maïs, etc. Il y a de nouveaux plats qui apparaissent, tels que, par exemple, le ndambé, qui est une recette locale faite à base de gnébé, le haricot local. Le ndambé, qui auparavant était largement consommé dans les zones rurales, c'était un plat qu'on appelait le tchalal. Et aujourd'hui, arrivé en milieu urbain, on a vu des modifications, l'ajout de certaines recettes qui fait que vraiment ça devient un plat consommé à longueur de journée, que ce soit au petit déjeuner, parfois dans les espaces hors domicile, mais aussi dans les ménages le soir. Et ce plat ressemble un peu comme le cassoulet chez vous.
Comment s'appelle-t-il?
Le ndambé.
J'aimerais bien ajouter, c'est vrai que j'ai parlé des ménages, mais depuis 1994, le sorgho, par exemple, est commercialisé dans l'alimentation hors domicile, notamment sous forme de grumeaux accompagnés de lait et surtout sous forme de bouillie. Et il se maintient depuis 1994 dans l'espace marchand alimentaire.
Ce que je retiens de ce que vous m'avez dit toutes les deux, j'ai l'impression qu'il y a un peu un impératif au Sénégal qui a été de redécouvrir d'autres céréales pour pallier au manque ou à l'absence ou à la difficulté en approvisionnement en riz, peut-être. Alors que chez vous, c'est davantage un choix.
Oui, c'est un choix. Bon, on ne s'est pas tellement extraverti. Peut-être qu'on a eu des intentions, peut-être d'adhérer à un modèle occidental, mais de plus en plus, on ne s'est pas trop détaché. Les mets locaux sont quotidiennement commercialisés dans l'alimentation hors domicile, même si elles ont été marginalisées dans les ménages. Voilà, donc les mets locaux, notamment les mets à base de sorgho et le fonio, pas tellement, c'est dans l'Ouest qu'on... Lors d'une enquête en 2015, on a vu une vente de fonio dans la rue, de mets à base de fonio dans la rue. Mais quant au sorgho, en général, on ne s'est pas trop écarté vraiment des mets locaux. Et si bien que de nos jours, ça devient des mets festifs. Non seulement elles font partie du quotidien du consommateur ouagavillois, mais elles font partie maintenant des mets festifs. Lors des cérémonies religieuses, lors des fêtes, ce sont ces mets qui sont proposés, en tout cas, aux convives.
Nicolas Bricasse, le riz et le blé se sont imposés parce qu'importés, les céréales traditionnelles se frayent cependant une place dans les assiettes aujourd'hui. On vient de l'entendre, mais elles ont un peu une autre fonction.
C'est vrai qu'historiquement, c'est le riz et le blé qui ont pris beaucoup de place dans les villes. Jusqu'à peut-être en devenir trop présentes, trop monotones. Et du coup, des consommateurs qui aujourd'hui, et qui ont toujours voulu, mais qui aujourd'hui veulent diversifier leur alimentation. Et diversifier, ça veut dire aussi aller chercher dans les produits cultivés dans le Sahel, cultivés en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire ces céréales comme le mil, le sorgho, le maïs. Donc effectivement, ils jouent aujourd'hui un rôle de diversification. Bon, certaines céréales locales, dans les pays côtiers, je pense au Bénin, au Togo, au Nigeria, le maïs, par exemple, a une place extrêmement importante dans l'alimentation. Et pour le moment, c'est juste le riz et le blé qui font diversification. Mais au Sahel, c'est plutôt les céréales comme le mil, le sorgho, le fonio, qui jouent ce rôle de diversification par rapport à un riz et un blé omniprésents. Dans les campagnes, le mil, le sorgho, le maïs restent majoritairement consommés. Et c'est le riz et parfois le pain qui viennent jouer la diversification. Alors qu'en ville, c'est l'inverse.
C'est ça, en fait. C'est parce que dans les cuisines en ville, on a perdu justement ces produits agricoles. Ils se sont perdus en route et on est habitué, en fait, à avoir ceux que l'on peut acheter. Alors que dans les campagnes, pour le coup...
Dans les campagnes, on cultive, mais on se met à acheter aussi. Et on achète, on achète du riz, du blé, mais on achète aussi du mil, du sorgho et du maïs qui étaient autrefois essentiellement cultivés pour être auto-consommés. Et quand on voulait acheter, ce qu'on trouvait, c'était le riz et puis en ville, le pain. Aujourd'hui, le maïs, le mil et le sorgho, ils sont cultivés toujours pour l'autoconsommation, mais ils sont aussi cultivés pour être vendus sur les marchés ruraux et sur les marchés urbains. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des produits commerciaux. Les colons parlaient de culture de rente et de culture vivrière. Culture de rente, c'était ce qu'on produisait pour gagner de l'argent, qu'on vendait, généralement sur le marché à l'exportation. Et puis, les cultures vivrières, c'était ce qu'on produisait pour se nourrir quand on était paysan. En fait, c'est une appellation coloniale qui a plus tellement de sens aujourd'hui, parce que ce qu'on appelait le vivrier, aujourd'hui, est devenu un produit de rente, c'est-à-dire que les paysans y vendent aussi une partie de leur production pour gagner de l'argent.
Manche nimbila kanadia yeti kukuro niti dunaro nyamya ikana jampa dirimanyi kana jampa yarabi kanumanyi wi nimiririli mala ikana nene nene mani kana jampa sheri kana wiya fokuma bere fonyi miririli madini halibanya tsunora Bulilila,
Sheri,
don't be near a bee way,
Sheri,
Yarabi, the Balamoma,
Sheri,
Ali, Panyakil and Akatila, Nekatilila, Pulando, don't be near a bee, Yamirilima,
Sheri,
Ali, Panyeta, Mamala, Yawali, Lilin,
Sheri,
don't be near a bee, the Wiala, Yarabika for all your knee.
Rabina de Morikanté sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Nous parlons de fonio, de sorgho, de maïs, de mil, céréales traditionnelles, toujours cultivées dans les campagnes, mais qui ont un peu délaissé les marmites dans les villes. Avec nous, Nicolas Bricasse, directeur de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, Charlotte Konkobo-Yameogo, directeur de recherche en technologie alimentaire à Ouagadougou, au Burkina, et Fatoundoy, sociologue chargé du pôle sécurité alimentaire auprès de l'ONG Ndagrafcel à Dakar. Alors, il y a un réel courant en Europe, aux États-Unis, depuis quelques années en fait, une envie de contrôler davantage ce qui fait notre alimentation en s'approvisionnant plus près, en achetant des ingrédients produits localement. Est-ce que ce courant-là, on le retrouve aussi chez vous au Burkina ou au Sénégal, Charlotte Kakongo, Fatoundoy?
Moi je parlerai peut-être d'un certain patriotisme alimentaire. On a vu, là je suis sur une étude commanditée par le GRET sur l'alimentation hors domicile. On a vu lors d'entretiens vraiment qualitatifs des jeunes qui ne consommaient que des mets issus du Burkina. Un jeune qu'on a rencontré vraiment du secteur informel, il ne consomme que du haricot, des mets vraiment du Burkina. Il s'écarte vraiment d'autres mets, même sous-régionales, d'introduction des pays limitrophes du Burkina. Non, il y a un certain patriotisme et même des jeunes qui consomment du panini. On va les voir en train de consommer un plat de haricots, un plat de pois de terre, de wanzu, un plat de gonri et à base des beignets à base de niébé.
Le Sénégal, à mon avis, il y a la condition économique, la question économique qui a beaucoup poussé les gens à revenir vers ces produits locaux. Parce que, comme je vous l'avais dit, le Sénégal était un pays, et toujours d'ailleurs, un pays grand importateur de riz. Mais aussi, l'autre aspect qu'il faut souligner, c'est la diversification de l'offre. Depuis quelques années, nous avons vu une panoplie d'unités, d'entreprises qui travaillent sur ces céréales, qui les transforment et qui a amené donc à une disponibilité importante du produit et qui permet aujourd'hui à la ménagère qui rejetait auparavant ces produits céréalés à cause de leur fastidité, bon, parce que c'était un travail dur, pénible, etc. Mais aujourd'hui, on en trouve de plus en plus et c'est vraiment commode, comme à peu près le riz. Et aussi, le prix commence à être vraiment accessible, surtout quand on va, par exemple, dans la restauration hors domicile. Nous voyons beaucoup de femmes qui, aujourd'hui, propose des bouillies, des recettes à base de céréales locales qui permettre justement de diversifier les menus au sein des ménages.
Parlons justement, Nicolas Bricasse, de la transformation de ces céréales en un produit fini et du rôle des femmes dans la redécouverte des céréales traditionnelles.
En Afrique, effectivement, les cuisinières savent préparer, savent transformer les produits, savent leur donner des goûts spécifiques, surtout quand on a des fermentations, par exemple, ou en termes de granulométrie. Il y a une très très grande et très fine connaissance culinaire. Mais en ville, c'est compliqué, c'est long, c'est pénible à savoir le faire. Et donc, il y a une tendance aujourd'hui de voir des petites entreprises proposer des produits déjà transformés, des produits qui vont faciliter la tâche. Mais en même temps, ça veut dire que pour acquérir ces produits, il faut faire confiance pour savoir qui l'a fait, comment ça a été fait, avec quel respect des règles traditionnelles. Et puis, ça veut dire qu'on peut pas avoir des produits trop standards. Les gens ont une vraie connaissance très fine de la qualité de ces produits. Une farine, pour nous, ça ressemble peut-être à un grain qui est broyé. Mais quand on est connaisseur, des farines, il y en a de tas de sortes, de tas de finesses, plus ou moins éventuellement fermentées, plus ou moins tamisées. Donc, pour une entreprise qui fait des produits déjà transformés, ben, ça veut dire qu'il faut que ces entreprises arrivent à convaincre la population, convaincre la clientèle qu'elles font de la bonne qualité. En même temps, c'est pas très facile quand on est très connaisseur du produit. C'est pas très facile tout d'un coup de faire confiance à ce qu'il y a dans un paquet qu'on peut pas ouvrir, qu'on peut pas sentir, qu'on peut pas forcément goûter. On sait pas très bien comment ça a été fait. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai travaillé avec une petite entreprise sénégalaise qui faisait de la farine, de la semoule de mil et des produits roulés à base de mil, des couscous, des granules de mil. Elle était tenue par deux hommes qui, en fait, étaient autrefois en Mauritanie, qui étaient revenus au Sénégal, qui avaient monté cette petite entreprise mécanisée. Et un jour, j'arrive dans l'entreprise et on a déchiré, il y a un chien qui a déchiré les tamis qui servaient à tamiser le mil, donc c'est un peu la panique, il faut absolument produire. C'est une entreprise qui produit beaucoup pour un marché captif, marché des écoles, marché des hôpitaux. Les produits se vendent pas très bien dans le quartier, personne veut trop acheter les produits dans le quartier. Donc on cherche une solution pour remplacer les tamis, on la trouve pas. Et donc on a l'idée de demander à des femmes du quartier de venir tamiser manuellement dans l'entreprise. Le jour où les femmes sont rentrées dans l'entreprise, les produits ont commencé à se vendre dans le quartier. Parce que les femmes, elles ont commencé à dire dans le quartier, on voit comment ces gars travaillent, on voit le mil qu'ils ont acheté, on voit qu'ils sont sérieux, et puis nous, on contrôle. Et en fait, ça a créé de la confiance vis-à-vis des ménagères qui, jusque-là, se demandaient bien comment deux hommes étaient capables de faire des produits roulés, qu'est-ce qui se passait dans cette entreprise qu'aucune femme ne pouvait observer. Et du coup, on voyait que la confiance dans un produit semi-industriel, elle n'est pas immédiate, elle se construit, et elle se construit en particulier si les femmes peuvent garantir qu'effectivement les règles de qualité sont respectées. Il faut continuer à arriver à respecter aussi le savoir-faire des ménagères. Donc elles achètent des produits déjà semi-transformés, on pourrait dire, mais elles vont les finir pour en faire des plats, et c'est là que va s'exercer aussi leur savoir-faire.
Les femmes qui jouent, on le voit, un rôle absolument pivot, Charles Konkogo.
Oui, bon, pour le cas du Burkina, je ne peux pas parler d'une réelle reconnaissance, notamment par les autorités, de ce travail vraiment formidable que ces femmes font. On a des milliards et des milliards de financements pour la production agricole, mais on ne pense pas aux actrices qui sont là pour faire la transformation.
La traduction concrète d'une céréale en un plat qu'on a envie de manger.
Voilà. On pense transformation, mais on ne pense pas cuisine parce que c'est dévalorisant. Et pourtant, ce sont elles qui font passer vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes de céréales qui sont produites par l'agriculture. Et vraiment, si j'ai un cri de cœur à lancer, que les autorités commencent à revoir vraiment ce secteur qui est très très important pour l'agriculture.
Laissons tremper nos niébés, casseroles sur le feu, sous la main du fonio prêt à cuire, quelques minutes, le temps de prendre des nouvelles du monde, et l'on se retrouve devant un bon plat de poulet sauce graine.
Le goût du monde, Clémence de Navi.
Vous nous rejoignez, bienvenue. Vous écoutez le Goût du Monde. Aujourd'hui, nous parlons du sorgho, du mil, du fonio, du sarrasin, de l'avoine, de ces céréales traditionnelles qui ont progressivement laissé leur place au riz, au blé dans les marmites du monde, mais qui reviennent petit à petit, comme l'ont raconté en début de l'émission nos invités, Fatoun Doy, qui est sociologue, responsable du pôle sécurité alimentaire pour Ndagraf Sahel à Dakar, Nicolas Bricasse, chercheur au CIRAD, directeur de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, et enfin Charlotte Kokombo-Yameogo, chercheur au département de technologie alimentaire au Centre national et technique du Burkina Faso. Ces céréales traditionnelles que l'on voit revenir dans nos assiettes suscitent la curiosité, l'enthousiasme aussi des chefs de restaurants aux États-Unis, à New York, à Londres, par exemple pour le mil ou le fonio qu'ils ont réintroduit sur leur carte de restaurant. Est-ce que c'est un mouvement que vous avez pu noter vous-même, Fatou ?
On le voit de plus en plus, les céréales locales, que ce soit le fonio, le mil, le couscous de mil, etc. Bon, vous allez dans les rayons un peu partout en Europe, vous voyez ça. Et les femmes aussi cuisinent cela. Ça permet quand même de donner une certaine légitimité, tu vois, à ces plats-là au niveau local. Parce que manger du couscous en Europe ou aux États-Unis dans un restaurant, quand même, comme vous le dites, c'est des lettres de noblesse et qui peuvent aussi amener les populations à se rendre compte que, justement, ce que nous rejetions auparavant est aujourd'hui important. Et quand on revisite le registre de la santé, aujourd'hui, quand vous voyez pourquoi ces céréales locales commence à avoir une percée dans les habitudes alimentaires des populations, justement parce que souvent on se dit voilà comment mangeaient nos ancêtres, nos grands ancêtres, et ils n'avaient jamais eu de problème de diabète, ainsi de suite, et pourquoi pas ne pas revenir sur ces céréales. Donc je pense que ce n'est que une bonne chose, et ça permettra aussi aux producteurs de pouvoir avoir plus de ressources par rapport à ça.
Nicolas Bricasse, l'argument santé, c'est un atout aussi pour les céréales ?
Ben peut-être que la caractéristique des céréales traditionnelles pour des consommateurs qui deviennent très attentifs à l'alimentation, c'est d'apparaître naturel, d'avoir été peu industrialisé, peu transformé, d'apparaître relativement authentique. Alors en plus de ça, pour les gens qui sont sensibles à la question du gluten, beaucoup des céréales africaines sont sans gluten.
C'est le cas du sorgho,
du mil, du fonio, qui sont effectivement sans gluten. Donc également sur ce registre-là, ce sont des céréales qui ont des chances de pouvoir acquérir des places de marché sur la population qui est devenue sensible à ça. Le fonio, par exemple, c'est un produit qui est très apprécié dehors de ces zones de consommation traditionnelles, que sont Guinée, Burkina, en partie Sénégal, Niger, Mali, bien sûr. Mais on voit que le fonio, il est apprécié ailleurs, il est apprécié en Europe. Il y a plusieurs entreprises qui vendent du fonio en Europe. Alors c'est vrai beaucoup pour la diaspora africaine, mais pas seulement. Parce que d'abord c'est un produit très agréable, très goûteux, très sympa à manger, en plus de ça sans gluten, et puis traditionnel au sens sans pesticides, sans transformation industrielle, sans intervention importante des humains, même si c'est quand même un produit très compliqué à préparer.
Entre un riz dont on maîtrise la cuisson et un fonio plus délicat, plus difficile à appréhender, la transformation a été la clé pour réintroduire ces céréales en ville. Cela a participé aussi, Charlotte, Fatou, peut-être à leur redécouverte, et ce, en grande partie, grâce aux femmes.
C'est ce que j'allais dire pour le cas du Burkina. Et la transformation a permis une certaine réinsertion de certaines céréales, notamment pour le fonio, mais pour le mil, le sorgho. Et ce sont les actrices de l'alimentation hors domicile qui font du prêt-à-manger du cuit.
Qu'est-ce que vous voulez dire, actrice de l'alimentation hors domicile? Ça veut dire quoi?
Je pense à toutes ces femmes, à toutes ces restaurateurs. Je dis actrice parce qu'elles bricolent pour donner vraiment des recettes innovantes et qui requièrent vraiment l'assentiment de beaucoup de consommateurs. Et elles font du succès à travers ces mets qu'elles proposent, notamment les galettes, notamment les bouillies, notamment tous ces mets vraiment à base de niébé et autres produits que nous avons.
Vous avez le même sentiment?
Oui, moi je peux dire que l'offre maintenant, on a toutes les catégories d'offres. Aujourd'hui, quand vous voyez par exemple dans les supermarchés, vous pouvez trouver des céréales transformées, emballées, que vous pouvez utiliser dans les ménages. Vous allez aussi dans les marchés, vous pouvez trouver, et puis ça d'ailleurs c'est dans, depuis le temps, nous avons aussi des céréales, des couscous, etc., que les gens peuvent utiliser. Mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est vraiment cette restauration populaire, la restauration de rue ou la consommation hors domicile qui a vraiment boosté, tu vois, les habitudes alimentaires des populations. Parce que vous savez, dans une ville comme Dakar, de plus en plus, les gens mangent dehors parce que pour des contraintes professionnelles, ils sont obligés d'aller dans la rue ou dans des marchés ou dans des restaurants,
le chemin du travail, quoi.
Etc. C'est la vie. Et donc, à partir de ces contraintes, les femmes ont essayé de proposer des mets vraiment adaptés et à toutes les catégories de la population. Nous avons par exemple ce que les jeunes d'aujourd'hui appellent le ndamburger, pour faire analogie à l'hamburger, mais qui est le plat à base de ndambé. Par exemple, c'est le cassoulet à peu près, donc c'est à base de niébé local et c'est des sandwichs avec du pain. Donc aussi, ce que nous voyons dans ces restaurants, nous avons une association entre les produits importés, parce que le pain que nous utilisons, c'est du blé importé, mais également le niébé ou le haricot local. Donc il y a une association entre le local et l'importé, et c'est ça qui fait aussi la réalité et toute l'innovation, toute la finesse que ces dames, ces bonnes dames qui sont dans les quartiers populaires innovent et permettent vraiment de voir une consommation autre.
Est-ce que ce facteur goût, il est important dans l'approche qu'on a des céréales traditionnelles? Charlotte.
Mais en milieu urbain, il faut quand même parler de réadaptation, de redéfinition gustative de des mets traditionnels. Parce que c'est ça aussi qui fait le succès des actrices. On ne reporte pas en l'état du milieu rural au milieu urbain et ces mets. Si je prends le babenda, par exemple, il est réadapté et on lui met d'autres ingrédients venant d'ailleurs, on utilise d'autres ingrédients et c'est ça qui fait qu'il y a une forte notoriété de ce produit aujourd'hui, une forte acceptation de ce produit.
C'est quoi le bavenda?
C'est une sauce à base de légumes et de céréales. À l'origine, c'était le sorgho, mais maintenant c'est le riz. Et c'était les feuilles de haricots. Maintenant, c'est le moringa qui est issu du maraîchage urbain. À l'origine, c'était une sauce de soudure, une sauce identifiée à travers des contraintes climatiques et tout, de sécheresse et tout. Et maintenant, ça devient une sauce qui devient nourriture dans la logique moins verte. Voilà, au lieu d'une nourriture de contrainte, il devient nourriture de plaisir et de choix.
Vous approuviez?
Effectivement, l'adaptation est toujours là. Je vous ai parlé tout à l'heure du ndambé, par exemple, qui était un plat très élaboré, très simple, à base de niébé. Mais aujourd'hui, quand ce plat revient à ville, il y a un changement qui a... On ajoute des ingrédients, des tomates, même de la viande, pour permettre justement
de moderniser
un peu par rapport au goût des urbains. Donc, dans les sauces aussi que nous voyons, il y a aussi des ajouts, des ingrédients. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, il y a des créations, des innovations que les gens font pour pouvoir justement, parce que associer des légumes qui avant n'étaient pas dans certaines sauces, et c'est ça qui permet justement d'avoir de meilleurs goûts.
Kaya fama, lonela lo kaya fa, mo te ya.
Salif Keïta, oui, c'est bien le goût du monde. Vous êtes sur RFI, nous sommes dans les rues de Dakar, Ouagadougou, d'Abidjan, de Paris ou de Marseille, dans les rues des villes, là où vit aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale. La ville et ses habitants qui réfléchissent, quand la nourriture n'est pas, bien sûr, n'est plus un besoin alimentaire, qui réfléchissent à ce qu'ils mangent et à comment manger mieux. La question revient de plus en plus souvent. L'Afrique, l'Asie, l'Europe sont dans cette envie, cette prise de conscience, d'où le retour à des circuits courts, à des productions locales, laissées de côté des années comme en France, l'épeautre, le sarrasin, le millet ou l'orge. Pourquoi ce mouvement, Nicolas Bricasse ?
Quand on était producteur soi-même, on savait comment on faisait à manger, puisqu'on produisait soi-même, c'était généralement l'épouse qui cuisinait, donc on savait comment ça se passait. Quand on arrive en ville, les produits, on ne sait pas très bien d'où ils viennent de plus en plus loin, au fur et à mesure que les villes grossissent. Il y a de plus en plus d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Il y a des transformateurs, il y a des distributeurs, il y a des restaurateurs, bon. Et du coup, quand on est né en ville, quand on a plus beaucoup vu comment on cultive au village, on perd une part de la connaissance qu'on avait des produits. Et puis en plus, après, on a un système alimentaire qui s'autonomise avec des entreprises, avec des services, avec la science, avec le contrôle de qualité. Et le consommateur, le mangeur, il a un sentiment de perdre un certain contrôle sur son système qui lui échappe en partie. Donc il est inquiet. Il se demande comment... finalement, toutes ces institutions, toutes ces entreprises respectent les règles de qualité, l'authenticité des produits qu'il veut avoir. Donc, effectivement, l'industrialisation d'un système alimentaire, c'est une crise de confiance pour le consommateur. C'est difficile pour le consommateur d'apprendre à faire confiance à ces institutions. Et donc, effectivement, la confiance, elle est au cœur de l'évolution du système alimentaire. Et c'est aussi pour ça, parce que nos rapports à l'alimentation se sont distanciés dans toutes ces dimensions-là, que tout le monde recherche de la proximité. essaye de d'avoir quelques
produits.
Le manger
produits, local, c'est le ça manger on se local, réapproprie un petit peu le
si possible de pas trop loin, si possible sans trop d'intermédiaires, si possible en pouvant rencontrer le producteur, si possible en pouvant cultiver soi-même quelques produits, c'est rassurant de se dire que on continue d'être un peu capable de faire de l'agriculture, même si c'est marginal dans l'alimentation. In fine dans ce qu'on mange. Et puis aussi de pouvoir se réinvestir politiquement dans l'alimentation. Il est très intéressant de voir que depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de villes dans le monde qui décident d'entreprendre des choses sur l'alimentation. L'alimentation, c'était géré plutôt par l'État. Et aujourd'hui, on voit les villes qui construisent des politiques alimentaires.
Est-ce que vous faites allusion à l'agriculture urbaine ?
Je fais allusion à ça. Je fais allusion au fait que les villes ont des terres. Elles ont du foncier et qu'elles peuvent décider soit de l'affecter à de la construction, soit de l'affecter à des espaces récréatifs, à des espaces verts ou à des espaces, maintenir des espaces agricoles. Et il y a plein de villes dans le monde qui décident de garder des espaces agricoles pour permettre à des gens avec peu de revenus, qui n'ont pas grand-chose d'autre comme savoir-faire que de cultiver, de continuer à accéder à un lopin de terre, pour avoir des produits de proximité, pour avoir des zones de refroidissement des villes avec le changement climatique, pour avoir des zones d'absorption des inondations, quand il y a des inondations d'absorption dans les quartiers. Donc les villes ont du foncier dans les mains. Certaines villes gèrent la restauration collective, la restauration dans les écoles. Et par ce biais-là, elles peuvent jouer sur l'alimentation des enfants. Initialement, on créait des cantines scolaires pour attirer les enfants à l'école. Aujourd'hui, on se rend compte que les cantines scolaires, c'est pas seulement pour attirer les enfants à l'école, mais ça peut être un moyen d'éducation au goût, ça peut être un moyen d'habituation des enfants à certains produits, ça peut être un moyen, en fait, de jouer sur les comportements et l'apprentissage des comportements. Les villes, c'est de l'aménagement. On aménage la ville avec souvent des préoccupations d'éviter l'engorgement, d'éviter trop de circulation. Et de ce point de vue-là, dans l'urbanisme, dans la politique urbanistique, la localisation des marchés, l'emplacement des supermarchés, la possibilité de créer des infrastructures commerciales façonnent nos comportements. Si vous supprimez les marchés pour les mettre en périphérie sous forme de supermarchés, eh ben du coup, vous n'avez pas les mêmes types de comportements que si vous aménager, prévoyer dans les quartiers des espaces pour des vendeurs.
Donc on est dans une réalisation quand même. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience dans bien des pays qu'il est important de redonner à l'aspect territorial de l'agriculture et de la production davantage de valeur, davantage de présence. Il faut se réapproprier tout ça et redonner.
Oui, et il faut retrouver, laisser aux mangeurs et notamment aux mangeurs citadins la possibilité d'avoir un lien avec l'agriculture. En même temps, il faut pas rêver.
Non, faut pas être angéliste parce que c'est un
une
peu...
ville d'un million d'habitants, elle peut pas se nourrir uniquement avec une ceinture de 50 km autour d'elle. Elle peut le faire pour les légumes, elle peut le faire peut-être pour la volaille et les œufs, mais pour les céréales, pour les huiles, pour le sucre, pour tous les produits qu'on consomme, en fait les villes aujourd'hui elles sont très grosses. Et ça veut dire qu'il faut qu'elles aillent s'approvisionner généralement au loin. Au loin, ça peut être à 200-300 km. Donc retrouver de la proximité avec les ceintures vertes, oui, mais ça veut dire aussi réfléchir comment on peut être solidaire avec des producteurs qui sont beaucoup plus loin et qui sont indispensables pour nourrir les villes. Donc ça veut dire aussi réinventer des relations de solidarité entre des villes et des campagnes. Un exemple, c'est le Vietnam. La ville de Hanoï passe des contrats de solidarité avec 52 provinces agricoles qui lui fournissent son alimentation. La ville veut garantir une alimentation de bonne qualité sanitaire. Mais du coup, elle comprend aussi qu'elle ne pourra pas se nourrir uniquement de sa périphérie et qu'il faut qu'elle puisse travailler avec des producteurs qui sont beaucoup plus loin pour les aider à faire des produits de qualité. Et donc, on voit se dessiner des nouvelles formes de solidarité entre ville et campagne. Et ça, c'est sans doute une des voies d'avenir.
Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on peut voir, même si c'est frémissant, hein, ce retour, cette redécouverte très ponctuelle, localisée, des céréales traditionnelles, est-ce que c'est une bonne nouvelle?
Oui, c'est une bonne nouvelle parce que c'est, une reconnexion entre les villes et les campagnes du
pays. Un patrimoine également.
Deux, c'est une affaire culturelle. L'alimentation, c'est pas simplement absorber des calories ou des protéines et des vitamines et des micronutriments. C'est la construction de son identité, et de son patrimoine. Mais c'est pas que la tradition, l'identité, c'est que les villes inventent aussi leur propre cuisine, inventent leur propre culture. Les villes ont inventé de la musique, elles inventent de la cuisine, elles inventent de la mode. Et donc la cuisine, c'est aussi une façon de construire son identité.
Les céréales qui jouent un rôle dans la diversification de l'alimentation, on l'a vu, mais elles semblent assez indétrônables, ces céréales, Nicolas Bricasse.
Et en même temps, c'est pas que les céréales locales qui peuvent faire alternative au riz et au blé, c'est aussi les racines et tubercules. C'est les pommes de terre, c'est le manioc, c'est l'igname, c'est le taro, c'est le macabo, c'est la banane plantain. L'Afrique est pleine de ressources pour faire des plats de base.
La diversification, elle se passe vraiment davantage par là, presque, vous auriez
clairement
envie de dire.
La tieké, au départ, c'est vraiment Abidjan. C'est en train de devenir un produit qui se diffuse dans toute l'Afrique. L'igname, c'était vraiment la zone de savane, et l'igname est en train de remonter partout, et en train de se diffuser partout. La pomme de terre a été introduite au moment de la colonisation. Aujourd'hui, la Guinée en produit, et la pomme de terre, elle est en train également de se diffuser. Donc la diversification alimentaire, c'est à la fois la diversification des céréales, mais c'est aussi la diversification céréales, racines, tubercules et banane plantain.
Et avec la diversification aussi, on découvre de nouvelles façons de cuisiner et de nouveaux goûts.
De nouveaux goûts, de nouvelles textures, de nouvelles combinaisons entre les bases et les sauces. Et puis, c'est la diversification des cuisines africaines qui se diffusent en ville. C'est-à-dire que les villes n'ont pas simplement leur propre cuisine, mais elles apprennent les cuisines des villes voisines. Comme le tiboudienne s'est diffusé dans le reste de la sous-région, comme la tieké est en train de se diffuser, comme le babenda du Burkina se diffuse, garba, le plat d'Abidjan, qui est en train de gagner ses lettres de noblesse partout en Afrique. C'est un plat extraordinaire, c'est un plat à base d'attiéké de manioc, de poisson, avec un certain nombre de condiments, inventé par les émigrés du Niger installés à Abidjan. Et puis qui va devenir progressivement un des symboles de l'alimentation d'Abidjan.
Et pour preuve, s'il en fallait, je suis allée ce matin faire des courses, m'acheter un sachet d'attiéké et puis un sachet de chips plantain, qui est un peu mon péché mignon, chez Hassan Bati, qui est à quelques mètres de chez moi. Et à la caisse, j'ai rencontré Louise et Cécile qui faisaient leurs courses.
Moi, je n'utilise pas beaucoup.
Non, le mil, le sorgho.
Non. Moi, c'est l'attiéké.
Vous êtes ivoirienne, vous.
Oui, oui. Ah, voilà. Donc, nous, on mange attiéké, plakali, du riz, banane, plantain, puis du gombo, pas de maïs.
D'accord.
Manioc, plutôt.
Au Cameroun, on mange pas de céréales.
On ne mange pas de céréales chez nous. Enfin, des céréales, je n'en sais rien, mais je ne sais pas ce que c'est.
Céréales, c'est le maïs,
le
c'est
sorgho,
le... Non, le sorgho, il n'y a pas au Cameroun.
Il y a plus de fruits et de tubercules.
Les tubercules comme ça, là, comme le manioc, les ignames. Il y a plusieurs sortes d'ignames.
Le taro,
le macabo. Et il y a la patate douce, l'igname. On a plusieurs sortes d'ignames. L'igname sucré, l'igname longue. Et puis il y a les papayes, il y a les avocats.
Et le riz.
Oui, on mange du riz maintenant. Mais c'est beaucoup plus importé. Si on a pris l'habitude de manger le riz au moins une fois par semaine ou deux fois par semaine. C'est passé maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Avant, c'était très, très, très cher. D'abord, le riz, on mangeait beaucoup plus pendant les fêtes. Maintenant, c'est deux ou trois fois par semaine.
Est-ce que vous pensez que ça peut prendre la place de la farine de...
Non, parce que déjà, avec ça, on peut faire plusieurs mains. On peut faire bouillir comme ça et manger. On peut tremper et un peu fermenter. On fait ce qu'on appelle les miondo, les bobolo, le foufou. On peut râper. Il y a plusieurs sortes. On peut même mettre l'huile rouge, l'huile de palme. C'est très bon. Ben, on a plusieurs sortes de légumes. Il y a le ndolé, il y a les feuilles de manioc. C'est pour ça que le Cameroun est résistant chez nous. C'est ça qui nous sauve, surtout ça, le manioc. Bonne journée.
Bonne journée. Un cuisinier qui ne goûte pas n'est pas un bon cuisinier, c'est un dicton. Un chercheur en alimentation, expert en céréales notamment, en mange forcément. N'est-ce pas Nicolas Bricasse? Quel est votre plat préféré?
Non, c'est un plat sénégalais, c'est le riz au poisson. Paradoxalement, c'est un plat à base de riz. Inventé par la ville, à partir de riz venant d'Indochine au départ, à partir de légumes introduits en partie par les Portugais au début de la colonisation, avec de l'huile qui a été promue aussi au moment de la colonisation, avec du poisson très abondant sur les côtes, un plat qui est en rupture totale avec les habitudes alimentaires, puisque c'est un plat qui se fait dans une seule marmite, et c'est un plat sublime. Et je comprends que les Sénégalais soient attachés à ce plat. En même temps... En manger tous les jours, au bout d'un moment, ça devient lourd. Et donc, regoûter un petit lard, regoûter un petit couscous de temps en temps, ça, c'est merveilleux.
Un tiep, un tieboudienne, bien sûr, pour Nicolas Bricasse, à partager d'urgence. Et vous, Charlotte, Fatou?
Moi, j'ai consommé tout. il est fait à base de maïs. Je consomme la bouillie de sorgho rouge, de mil. Je suis multicéréale, moi. Je n'ai pas qu'une céréale, je suis multicéréale. Mais le thon, c'est mon plat préféré. C'est une pâte faite à base de nos céréales locales, soit le maïs, soit le mil, soit le sorgho.
Je suis sûre qu'il y a une sauce avec ça.
Oui, plusieurs sauces. Il y a plus d'une vingtaine de sauces, en tout cas dans le registre alimentaire culinaire local.
Fatou.
Ah, moi, c'est le couscous. Le couscous de mil. Moi, j'adore le couscous parce que ça s'accompagne avec une sauce à base de poisson ou à base de viande, à base de poisson fumé, aussi à base de feuilles de moringa. Donc, il y a énormément de sauces qu'on peut associer au couscous. Et vraiment, c'est un plat formidable que j'adore.
Et que vous allez pouvoir déguster dès ce soir, Fatou, puisque nous sommes vendredi. Merci, merci beaucoup à vous trois, Nicolas Bricasse, Fatou Ndoye, Charles Kokobo Yameogo, pour cette émission garantie sans gluten, riche et gourmande, on l'espère. Merci à vous qui nous écoutez. On pense donc à une émission sur le garba, c'est promis, le gombo, les sauces feuilles, l'igname. Ah, tout ce que nous aimerions bien pouvoir mitonner. À vous de nous dire maintenant comment vous aimez les céréales dont nous avons parlé, une recette peut-être à nous donner, une photo sur la page du Goût du Monde, sur Facebook ou Twitter, partagez, donnez. Cécile Bonnissier et moi, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous, cuisinez, aimez. Très belle semaine à tous. Tout de suite, le journal sur RFI.